Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot.
Moi, je vais
te
rechigner.
Nous parlons tous de la
logosphère.
Vous êtes ici. Vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi.
Sur le ton.
C'est
le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue dans cette édition du vendredi de Tous au poste. Aujourd'hui, c'est François Barrès, Emmanuel Plaza au micro et Amélia en régie. Aujourd'hui, nous parlerons à nouveau de danse puisque Jean-Paul Montanari était notre invité en début de semaine lundi pour nous présenter cette 30e édition de Montpellier Danse qui débute aujourd'hui. L'occasion de vous rediffuser cet entretien, long entretien avec Jean-Paul Montanari, voilà qui est plutôt rare, donc on en profite. Et puis en seconde partie, ce sera Serge Valetti que tu as interviewé ce matin par téléphone, François.
Absolument, Serge Valetti qui est un auteur marseillais. Et qui sera ce soir à la présentation de la saison de la scène nationale de Sète et du Bassento à Montpellier à 18h à l'auditorium du Musée Fabre.
Et en dernière partie de Tous au poste, tu nous proposes un petit son réalisé par nos confrères de l'Écho des Garrigues. De quoi s'agit-il ?
Et une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à un partenariat de nos confrères de l'Écho des Garrigues. C'est un festival qui a lieu en pleine nature le 18 et le 19 juin à Saint-Christol. Vous verrez ça à la fin du Tous au poste.
Et pour l'heure, ce sont les bons plans de ce vendredi 18. Un peu de salsa pour débuter ces bons plans avec une fête cubaine qui vient se produire les chanteurs latins, c'est leur nom, et DJ El Pato avec un repas cubain prévu. C'est dans le cadre des 15 ans de l'association Métissard et ça se passe à partir de 20h à la Maison pour tous Rosa Lee Parks dans le quartier Malbosque, Maison pour tous flambant neuve. Les réservations se feront au 06 85 91 23 21. Vous paierez entre 8 et 15 euros pour cette soirée. De la musique gitane cette fois-ci avec Soy, concert de musique gitane qui convie les groupes Los Hijos del Viento. Ils viennent de la cité Gelli et puis Al Savia de Arles et le Gitan Noir de Montpellier. C'est à 20h à la chapelle 170 rue Joachim Dubélé à la cité Gelli à Figuerolles. L'entrée est à 5 petits euros pour cette soirée à la chapelle donc. Toujours dans le quartier Figuerolles, mais un peu plus bas, c'est Namasté que vous pourrez voir et entendre. Namasté, c'est un groupe de hip-hop électro qui se produit à 21h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuerolles. Et comme d'habitude à La Pleine Lune, c'est gratuit. Et si vous préférez le rock'n'roll, rendez-vous à la salle Victoire 2 avec le concert de fin d'année des groupes de l'école Top Espace Musical. Ça se passe à partir de 20h à la salle Victoire 2, domaine du Mas de Gris à Saint-Jean-de-Védas. L'entrée est libre. On quitte nos murs et on va à Montarnaud pour le festival Jimmy dont tu nous parles, François.
Jimmy au Mas-Dieu, c'est le partenariat Divergence FM du jour puisqu'on retransmettra en direct une partie du festival Jimmy à 19h sur nos ondes. Jimmy, c'est une soirée événement du label Rude Awakening, le label de jazz innovant bien connu de Montpellier, qui invite ce soir en plein air dans un magnifique site tout un tas de gens qui tournent autour d'eux, Jean-Pierre Julien, Claude Chan Michian solo, Marc Ducret qui sera lui en trio, le Quartet Bernard, Julien, Denefeld, Poulsen et Jonah. Tout ça pour faire vibrer la soirée pendant quelques heures. Vous pouvez réserver au 09 54 45 17 82, le 09 54 45 17 82. Il vous en coûtera de 10 à 12 euros si vous vous déplacez sur place pour voir cette grande soirée de jazz innovant en plein air au Mas-Dieu. Et pour pour les plus fainéants et ceux qui ont envie de se donner un peu d'envie, c'est rendez-vous à 19h sur les ondes de Divergence FM.
Absolument, puisque nous retransmettons l'ensemble de cette soirée. On va un peu plus loin cette fois-ci à Sumen avec les Fils de Falco, un groupe de chansons, et puis Reg Evo, c'est du reggae sans surprise, et la fanfare Klezmer. C'est son nom et c'est sans doute aussi son style musical. C'est à partir de 19h sur la place du Plan à Sumen, dans les Cévennes gardoises. Et c'est gratuit, figurez-vous. Toujours dans le Gard, mais pas dans les Cévennes ou dans les contreforts des Cévennes. On va dire c'est à Vézenobre que vous pourrez assister à une exposition sonore du compositeur Nicolas Frise. Une exposition réalisée avec deux classes de l'école communale. Ça se passe à 21h au temple de Vézenobre. Si vous êtes dans le coin, l'entrée est libre. Vous pouvez vous renseigner éventuellement au 04 66 54 14 86. On vous le disait, c'est aujourd'hui que débute la 30e édition du festival Montpellier Danse, un démarrage en fanfare avec Merce Cunningham, excusé du peu, dont on apprenait la mort juste après l'édition 09 de Montpellier Danse, ce qui n'empêche pas sa compagnie de se produire ce soir, et peut-être pour une des dernières fois, puisqu'il est prévu qu'elle soit dissoute dans très peu de temps, nous confie Jean-Paul Montanari. Ce soir, c'est Roratorio que vous pourrez voir, c'est une chorégraphie de Cunningham, donc avec une musique de John Cage, l'un de ses vieux complices, avec les danseurs de la Merce Cunningham Company. C'est à 22h au théâtre de l'Agora, un théâtre flambant neuf, rue Saint-Ursule. Et puis vous pourrez également voir, dans le cadre de Montpellier Danse, Entre Chien et Loup, une chorégraphie d'Anne-Marie Porras et Salia Sanou par les étudiants de l'école Eps Danse. C'est à 19h à la place Calypso à Odysseum, c'est gratuit. Et puis on vous propose une interview de Salia Sanou dans le magazine que nous consacrons au festival Montpellier Danse. Ce sera sur le coup de 13h sur Divergence. Le printemps des comédiens se poursuit quant à lui avec toujours la route de Zigane, un spectacle imaginé par Daniel Bedos. C'est pratiquement tous les jours et c'est à 18h sous l'espace Mico Coulier. Et puis Café de la diversité, Je m'en fous si t'es noir, ce sont des poésies sud-africaines par la comédienne Madeleine Attal avec Claire Mingui au violoncelle et le groupe Mianzi. C'est à 20h30 à la Pined, l'entrée est à 7€. Printemps des comédiens toujours avec Lang Toy, comprenez Mon Village, un nouveau cirque du Vietnam. C'est à 19h30 à l'espace Chapiteau, mais c'est complet, nous dit-on.
C'est dommage parce que c'est magnifique.
Est-ce que tu as vu Les Avant-Mondes, un montage de textes mis en scène par Marion Coutarel ?
Eh bien non, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a dit beaucoup de bien.
Eh bien voilà, c'est ce soir à partir de 21h30 à l'espace Mico Coulier. Le prix des places varie de 5 à 12 euros. Toujours dans le cadre du Printemps des comédiens, La Nuit des Rois, une pièce de Shakespeare, mise en scène par Nicolas Briançon. Là, c'est à 20... Non, c'est à... Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas. Je n'en ai pas indiqué. 21h45, c'est ça. Et puis, c'est tout ça se place évidemment au Domaine d'eau, rue de la Carrieras, route de Grabels.
Et pour les amateurs de classique, il y a ce soir le concert des professeurs du Conservatoire national de région à vocation régionale, nationale, je ne sais plus, on s'y perd dans ces sigles. C'est à 19h à la salle Molière de l'Opéra Comédie et bien sûr, l'entrée est libre.
Retour sur Montpellier Danse avec, pas un spectacle, mais une rencontre avec Jean-Paul Montanari, le directeur du festival Montpellier Danse. Bien évidemment, il présente et dédicace Montpellier Danse, au pluriel 30 ans de création, un ouvrage dont il a assuré la direction, un ouvrage collectif publié chez Actes Sud, dont il nous parle d'ailleurs dans l'interview à suivre sur le 93.9 de Divergence. Ça se passe pour cette dédicace à 17h30 à l'auditorium de la librairie Soramps, mais attention, librairie Soramps, Odyssée à Odysseum. L'entrée est libre et puis ce sera suivi du spectacle de Salia Sanou dont on a déjà parlé.
Et Et enfin, une petite dernière théâtrale, parce que ce sont des gens qui sont sortis du dispositif in vitro qu'on a déjà largement évoqué sur nos ondes. C'est le dispositif d'aide aux compagnies théâtrales et de spectacles vivants du Crous, de notre ami Franck Berger. Et ce soir, c'est le festival Tostolito à 20h30 au Trioletto avec Requiem for a Dream. C'est de la danse et la nuit du doute. C'est une pièce d'Areski Metreff par la compagnie Zahir et de l'improvisation pour finir. C'est au Trioletto, derrière la fac de sciences, à 20h30, et bien sûr, l'entrée est libre. Voilà, c'en est fini de ces abondants bons plans du vendredi. On passe à la nouveauté, un court extrait, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'entendre le titre en entier, vu qu'on a du beau monde qui se presse à la porte juste après. C'est Fortress Europe, un titre qui pourrait faire référence éventuellement eh bien, à la pièce de Serge Valetti, dont on reparlera dans quelques minutes. Avec joie que l'on accueille aujourd'hui un voisin, un illustre voisin, avec une joie d'autant plus grande que ben, ces visites sont quand même pas très fréquentes dans nos studios. Habituellement, c'est plutôt nous qui nous déplaçons, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. La joie est grande également parce que c'est une occasion assez particulière et puis on imagine son agenda fort rempli. À quelques jours du lancement de cette 30e édition de Montpellier Danse, Jean-Paul Montanari, bonjour.
Bonjour.
Alors une édition, au vu de la programmation, qui tient ses promesses pyrotechniques, j'ai envie de dire.
Oui,
forme de feu d'artifice.
Bien sûr.
On va citer quelques noms quand même qui seront présents. Cunningham, Forsyth, Béjart, De Kersmaeker, Atou, Hogg, Monnier et bien sûr Bagué. Un 30e anniversaire célébré avec pas mal de fastes, avec également l'inauguration de cette fameuse Agora dont on reparlera. Et puis l'apparition d'un ouvrage somme, Montpellier Danse au pluriel, sous votre direction, publié chez Actes Sud. Alors une première question peut-être un peu triviale et un peu familière. Jean-Paul Montanari, alors heureux?
Plutôt très occupé, mais plutôt heureux, parce que ça vient comme ça couronner presque, couronner quelque chose, couronner beaucoup de travail, couronner le travail d'une équipe également. Mais bien sûr que le 30e ne nous a pas tout à fait pris par surprise. C'est préparé, on prépare ça depuis 2 ou 3 ans. Et le fait qu'effectivement tout converge vers ce 18 juin, mon Dieu, vers ce 18 juin où à la fois on ouvre cette 30e édition avec les noms prestigieux que vous avez cité, et en même temps on inaugure définitivement ce bâtiment qui enfin est terminé, ce bâtiment que Bagué avait voulu il y a 20 ans et que Fresh a réalisé d'une certaine manière, même s'il m'en confie aujourd'hui le fonctionnement. Et puis une chose à laquelle moi je tenais beaucoup, 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 c'est le livre que vous tenez entre les mains, mmh, et qui est effectivement ce livre de 300 pages sorti chez Actes Sud qui s'appelle Montpellier Danse, 30 ans de création, que je prépare depuis longtemps avec une partie de mon équipe et où on réunit à la fois une iconographie à la fois artistique et montpelliéraine, parce qu'il y a des photos prises dans les rues, etc. Et en même temps où on a voulu écrire des choses importantes qui marquent quand même ce 30e anniversaire et ces 30 ans de danse à Montpellier, sûrement, mais aussi en Europe et peut-être même dans le monde. Mmh.
C'est indéniable. Alors, donc un livre que vous dédicacerez d'ailleurs, je crois que ce sera pour l'ouverture du festival.
Oui, ça s'ouvre comme ça d'une certaine manière. C'est 17h30, si ma mémoire est bonne, chez Sorams à Odysseum, où le festival ouvre comme ça le 18 juin. Oui.
Alors 30 ans où vous avez bien su faire naître et prospérer un désir de danse à Montpellier. Pour vous, la danse est souvent question de désir, vous y revenez très fréquemment. C'est quoi finalement l'alchimie de ce festival ?
Ah, si je savais, je vous le dirais. Je ne sais pas. C'est les passions, les coups de cœur, les amours que j'ai pu avoir pour un certain nombre d'artistes, ou que j'ai toujours pour un certain nombre d'artistes, et pour leur travail, mais surtout pour leur travail d'ailleurs. Et puis après, faire partager à une population entière ses passions, c'est-à-dire de trouver les bonnes pièces de ces artistes, de trouver les bons lieux pour présenter ces bonnes pièces, et trouver souvent, aujourd'hui je le dis de plus en plus souvent, au bout de 30 ans d'expérience, les bons publics qui vont avec. Et surtout, avoir de la patience. On parle de 30 ans, donc il faut du temps pour construire des publics. Mmh. Les publics ne se construisent pas en 3 semaines, ni même en 3 ans. Il faut beaucoup de temps. Il faut revenir sur les œuvres, il faut les présenter, il faut les représenter. Souvent, les artistes, si je les trouve importants, c'est que souvent, ils sont un peu difficiles, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que, dont on n'a pas les codes, qu'on ne comprend pas nécessairement facilement. Et puis si je ne me suis pas trompé, je crois que j'ai souvent pas trompé, si j'ose dire, je me suis trompé quelques fois, mais aussi il y a beaucoup d'endroits où je ne me suis pas trompé, insister, c'est-à-dire même si on ne comprend pas tout de suite, allons-y, on recommence, jusqu'au moment où effectivement ça se met à marcher. Quelquefois, et c'est là où c'est les tristesses. Quelquefois, ça ne marche pas, contrairement à ce qu'on croit. Quelquefois, certains artistes ne trouvent pas leur public. Et dans ce cas-là, au bout de nombreux essais, quand ils sont finalement infructueux, il faut arrêter pour passer à quelqu'un d'autre. Mais enfin, la plupart du temps, ces artistes que je choisis finissent par trouver effectivement leur public.
On vous sait très attaché à cette forme d'équation qui serait de réunir dans le bon lieu, le bon chorégraphe et le bon public. Ça tient du casse-tête, non ?
Comment répondre à cette question ? Non, ça veut dire qu'il faut chercher des lieux, il faut chercher... Alors bon, on travaille avec un artiste, Kader Atou, qui est à l'origine un danseur de hip-hop, qui l'est toujours, chorégraphe de hip-hop, qui maintenant prend, comme son copain Mourad Merzouki, la direction d'un centre chorégraphique national, ce qui est un moment historique dans la danse française et dans la danse hip-hop d'une certaine manière, y compris sur l'ensemble de la planète, très important. Et il me propose une nouvelle pièce pour Montpellier sur la 3e symphonie de Gorecki. Je ne sais pas si vous avez entendu la 3e symphonie de Gorecki. On ne voit pas très bien comment on peut faire du hip-hop là-dessus. C'est pour ça que pour moi, c'est la pièce la plus attendue du festival, du prochain festival. Et puis, la chose la plus difficile à faire, jusque-là, je dis d'accord. Je dis à tout, à un public ici à Montpellier, parce qu'il s'est présenté à plusieurs reprises, donc il risque d'être surpris ce public, mais enfin il est là. La musique, l'œuvre par elle-même, étonnante, mais à tout me demande un lieu, et ce lieu je ne l'ai pas, je ne l'avais pas, il me demande un lieu désaffecté. Montpellier n'est pas une ville industrielle du 19e, donc pour trouver, il n'y a pas de friche, on n'est pas au bord de, on n'est pas, c'est pas un port, on n'est pas à Sète, on n'est pas à Marseille, et on n'est même pas à Lyon, où il y a des industries et des usines qui sont devenues désaffectées. Mais heureusement qu'à la mairie, on me trouve l'ancien atelier professionnel du lycée, l'ancien lycée Mendès France, sur Clémenceau, là-bas. Et du coup, ça convient. Donc voilà, nous voilà donc à installer un théâtre, enfin un lieu, c'est pas tout à fait un théâtre, c'est en bifrontal, vous savez, donc les deux gradins face à face, dans cette espèce d'ancien atelier désaffecté. Et c'est là qu'on va jouer vraiment le jeu avec Kader Atou. Donc voilà, on aura, je crois, réuni toutes les choses pour que ça marche. Kader joue 4 ou 5 fois, c'est complet, très bien, donc on est content. Et puis on attend, assis avec les autres, moi le premier, parce que j'ai horreur de regarder les spectacles en répétition, et surtout pas en général, où habituellement les spectacles qui sont réussis en général ne sont pas réussis à la générale, ne sont pas réussis à la première, c'est une tradition du spectacle, du milieu du spectacle. Donc je ne vais qu'aux premières avec le public. Je suis assis au milieu de la salle avec le public et je vois cette pièce dont je parle et sur laquelle j'ai travaillé depuis des mois et des mois et des mois. Et ben je la vois en même temps que tout le monde et c'est ça qui me fait cet intense plaisir. Et je vois et je comprends en même temps que le public si c'est réussi ou pas réussi tout de suite.
Alors, je n'avais pas prévu d'aborder tout de suite ce sujet-là, mais votre réponse m'y fait penser. Vous dites que la requête de Kader Atou était de travailler dans une friche industrielle ou un bâtiment désaffecté. Il se trouve que l'avenir de Montpellier Danse passe par une sorte de régionalisation du festival.
Je pense.
Est-ce que ce genre de sollicitation pourrait, à l'avenir, trouver une réponse dans d'autres villes que Montpellier ?
Mais pourquoi pas, oui. Même si les choses ne se reproduisent pas tout à fait de la même manière. Regardez, parce que dans la régionalisation, la régionalisation que nous menons, et justement nom de Kader, autour du nom de Kader Atou, c'est à 7 qu'on va retrouver Kader Atou à la rentrée. Or 7, il va jouer dans un lieu normal, dans un théâtre normal, et sa pièce, elle va être conçue après dans des théâtres tout à fait habituels à l'italienne. Mais on n'est qu'au début de l'histoire de la régionalisation. Hein. Très sincèrement, c'est une suite logique, historique de la décentralisation que nous avons tous appelé de nos voeux, nous qui vivons en région depuis toujours. Moi, je n'ai jamais habité Paris de ma vie. Hein. J'ai une partie de ma vie habité Lyon, l'autre partie à Montpellier. Donc, j'ai toujours habité dans des villes de province. Donc, j'ai toujours appelé un plus de décentralisation, un plus de régionalisation. Et que ça, c'est la régionalisation de Montpellier-Dans, c'est une suite logique au bout de 30 ans. Et parce que Georges Frêche est à la fois le patron de Montpellier-Dans et aussi le patron de la région aujourd'hui, il m'a demandé de réfléchir à cette... Et c'est bien normal que, finalement, tout le monde puisse profiter de cette manne, pas seulement financière, mais aussi de connaissances du milieu, de pratiques des publics et de la mise en place de projets où Montpellier-Dans peut à chaque fois être moteur par rapport à des projets. Hier soir, par exemple, hein, s'ouvrait le festival d'Uzès, Uzès Danse, avec Bouchra Wisgen, qui a été la chorégraphe marocaine, qui a été la révélation du dernier festival, celui de l'année dernière.
Avec Madame Plaza.
Bien sûr, avec Madame Plaza, qui est ce merveilleux spectacle. Et Liliane Schutz voulait absolument revoir, voulait inviter Bouchra à Uzès. Montpellier-Dans a été tout à fait acteur dans cette opération, puisque c'est Montpellier-Dans, finalement, qui a financé le retour de Bouchra Wisgen dans la région, et particulièrement à Uzès. Donc ça peut aussi servir à ça.
Pour revenir sur la question du désir, ce désir que vous entretenez depuis 30 ans maintenant dans le public, est-ce que votre désir à vous de danse est le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans ?
Non. Mais la danse non plus n'est pas la même il y a 30 ans qu'aujourd'hui, ou aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Tout change, heureusement. Donc les choses changent. La danse, c'est une longue histoire. Je l'évoque assez volontiers dans le livre. Mais c'est quand même une longue histoire. Tout ça est une longue histoire. Il y avait, au moment où la danse est née, ou en tous les cas, les 15 premières années, il y avait un rapport au corps, un rapport au désir, un rapport au spectacle, un rapport, finalement, d'une certaine manière, à la joie ou à la jubilation, qui malheureusement a sensiblement disparu pour des tas de raisons. Hein. On peut même le dater, si vous voulez, on peut le dater de la mort de Dominique Bagoué en 92. Voilà, ça c'est un signe d'une certaine manière. Bagoué meurt en décembre 92, il meurt du sida à ce moment-là. Et finalement, rien n'aura exactement été pareil, mais pas seulement dans la danse à Montpellier, dans la danse partout. Et la danse ne s'est plus tout à fait préoccupée de la même chose, ni de la même sorte de désir. Alors quelque chose d'autre semble revenir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la danse, comme tout le reste, est inclus et vit une espèce de crise à la fois économique, morale, de déplacement des choses qui se déplacent peu à peu de l'Europe vers ailleurs. Donc on est, d'une certaine manière, dessaisi d'un certain nombre de puissances que nous avions, et particulièrement pour la France, d'une puissance culturelle qui est longtemps, la France a été considérée comme la plus grande puissance culturelle du monde. C'est plus tout à fait exactement le cas. Donc il y a un peu une espèce de dérilection, de désarroi à la fois de la plupart des, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs territoriaux ou les artistes. Ceci dit, bon, alors ça continue, on y va, mais 30 ans plus tard, c'est pas tout à fait la même chose, d'autant plus qu'il y a 30 ans, nous savions avec Bagoué ce qu'il fallait construire. Donc on avait un plan qui, d'une certaine manière, sans méchanceté et avec un peu de, comme ça, d'humour, finalement s'achève. Là, maintenant, au bout de 30 ans, parce que c'est Bagoué qui, en 90, a voulu et a convaincu Georges Frêche d'installer son centre chorégraphique, non pas sur la route des plages où Frêche voulait le mettre, puisque il voulait faire de ce campus de Gramont une espèce de campus culturel avec le Zénith pour la musique, avec le théâtre, avec le centre dramatique. Et il aurait bien vu, quelque part par là, un centre chorégraphique sorti ex nihilo, là, à cet endroit-là. Or, Bagoué a beaucoup insisté pour que la danse contemporaine reste dans le cœur de ville, disant c'est un art trop difficile, il faut pas trop l'éloigner, etc. Il a eu gain de cause. Frêche, qui venait de racheter la caserne Grossetti, commence les travaux. Malheureusement, Bagoué meurt entre-temps, mais couvent des Ursulines. Mathilde Monnier reprend le flambeau entre-temps, et puis bon, finalement, donc commence à installer sur un tiers du bâtiment le centre chorégraphique. géographique. Le Montpellier Danse viendra la rejoindre quelques années plus tard. Et voilà donc que les travaux qui ont commencé il y a 2 ans se terminent. Donc, d'une certaine manière, quand on est arrivé il y a 30 ans avec Bagoué, on voulait faire ça. D'une certaine manière, notre cahier des charges est quasiment plein. Donc,
vous le saviez, ça, au départ ?
Non, mais on l'a senti au fur et à mesure qu'on avançait. On savait qu'il y avait un potentiel formidable en termes de festival, en termes de création, en termes de public. Ça, on l'a très vite compris. Dès la troisième année, on a compris qu'il y avait un vrai public dans cette ville possible. Après, vous savez, j'ai commencé à broder sur les espèces de fiançailles historiques entre Montpellier et le corps depuis la fac de médecine, qui quand même jusqu'à nouvel ordre s'intéresse à la question du corps, bien sûr. Et puis regardez, puis après j'ai, alors bien sûr, Montpellier Danse, toutes les compagnies de danse s'installaient à Montpellier, ce qui est statistiquement sans doute une des villes européennes à plus forte intensité de compagnies de danse, bien sûr. Pour 400 000 habitants, on a plus de 20 compagnies ici sur Montpellier, donc imaginez, ça voudrait dire qu'il y aurait 200 compagnies de danse dans une ville de 4 millions d'habitants, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien. Et puis après, vous pouvez aller plus loin. Tout le monde dit que Montpellier, c'est la Gay Pride la plus importante après Paris. Donc, il y a sans doute des histoires de corps et de désir là-dedans. Et puis le FIS, et puis le sport. Alors, Montpellier, aujourd'hui, est champion en handball, enfin, est très bon au football. Enfin. Donc, ça veut dire que cette question du corps dans cette ville, on peut pas dire la même chose de Nîmes. À Nîmes, on dit autre chose. À Perpignan, on dit autre chose. Mais ici, à Montpellier, il y a une espèce d'acquaintance, de fiançailles entre la question du corps et cette ville et étonnante. Vraiment étonnante. Donc, il y a un potentiel. Il y a toujours des choses à faire autour de la question du corps. Là, moi, je me suis spécialisé dans la danse. J'ai essayé de faire de Montpellier et de son agglo une capitale de la danse en Europe. Je crois qu'on y est arrivé.
Alors, il est une autre question que vous qualifiez dans cet ouvrage Montpellier Danse de démagogique en répondant aux questions de Lisotte et Agnès Iserine. Il s'agit de la question de la popularité ou non-popularité de la danse. Oui. Vous dites que finalement la danse n'est pas un art populaire, mais finalement ni plus ni moins que n'importe quelle autre forme d'expression artistique.
Bien sûr. Ce qui
pourrait éventuellement faire débat, mais on n'a pas le temps de débattre ici. Simplement. Est-ce que ce constat-là, c'est le constat d'un échec ou est-ce que finalement les choses sont très bien comme ça ?
C'est très bien comme ça. C'est à la fois jamais il y a eu autant de monde dans les salles. On se souvient de combien il y avait de gens et combien il y avait de salles il y a 30 ans dans cette ville, dans cet agglo, pour faire de la musique, ou pour faire de la danse, ou pour faire de l'opéra, ou pour faire du théâtre, etc. Aujourd'hui, les paris sont gagnés. C'est largement ouvert. Il y a beaucoup de monde partout. Il y a 300 000 spectateurs par an au Zénith. Il y a 70 000 personnes qui viennent voir de la danse contemporaine, il y a 100 000 personnes au festival de musique, enfin, etc., etc. Donc, et ça, c'est de la culture. La culture étant la mise en circulation des œuvres d'art. La définition de l'art, c'est une manière de faire exploser. L'art fait exploser la société. Il s'adresse qu'à des individus. Et les artistes sont toujours un peu devant. Ils disent toujours des choses qu'on comprend pas. C'est toujours un peu mystérieux. C'est toujours des sortes de prophètes, des drôles de gens, les artistes. Bon. Donc c'est pour ça que c'est jamais un artiste, alors, après, on peut discuter. Quelque part, dans la revue Danser, Frédéric Martel, qui vient d'écrire un gros bouquin sur mainstream, la culture de masse, d'une certaine manière, explique pourquoi la danse ne sera jamais mainstream. C'est-à-dire que c'est un art qui est un peu particulier et qui sera jamais un art de masse. Mais en général, l'art ne peut pas être populaire. La culture peut être populaire, mais pas l'art. Et surtout, si on pense que populaire, ça veut dire facile ou ça veut dire des choses comme ça. Il faudra toujours faire un effort pour accéder à l'univers d'un artiste. Mais que ce soit Gustave Flaubert en littérature, Merce Cunningham ou même Dominique Bagoué, il faudra toujours un effort qui sera supérieur à celui qui est demandé par la télévision, ça c'est sûr, parce que c'est pas le même jeu, quoi.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là dans le fait d'exiger des efforts de la part du public? Vous souhaitez que le public se mette en quelque sorte à la hauteur des créateurs et de leurs œuvres, et puis de dire par ailleurs, comme on vous l'a entendu dire sur une radio nationale il y a la semaine dernière, me semble-t-il, ce qui est formidable avec la danse contemporaine, c'est qu'on n'y comprend rien et que c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe?
Non, c'est de proposer au plus grand nombre de rien y comprendre. C'est pas si mal. Rien y comprendre, ça veut dire de se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça nous touche pas, pourquoi le fait de pas comprendre nous intéresse, parce que ça c'est, moi je suis venu à la danse pour ça, entre autres, mais parce que c'est énigmatique, la danse contemporaine. on parle que de ça, cette drôle de chose qu'on appelle la danse contemporaine, parce que on sait pas comment la nommer, mais chaque créateur de danse contemporaine a son propre langage, alors que dans la danse classique, tous les chorégraphes et tous les danseurs classiques ont tous la même technique. C'est la question du code, bien sûr, hein. Alors qu'en danse contemporaine, chaque créateur a son vocabulaire, donc chacun parle sa langue, et donc il faut accéder à la langue de chacun à chaque fois. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est décrypter, être à l'écoute de l'univers d'un artiste, à condition qu'il soit un artiste important, pour essayer de comprendre où il veut m'emmener, qu'est-ce qu'il veut me dire. Et c'est ça l'essence de la danse contemporaine. Si on comprenait tout de la danse contemporaine, elle n'aurait que vraiment peu d'intérêt.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la danse génère ce que j'appellerais moi une forme de nostalgie instantanée liée à son côté éphémère, liée au fait qu'on ne peut pas la commercialiser au même titre qu'un autre produit commercial comme les disques ou les livres, et que du coup ça crée un rapport particulier au public?
Je vous suivrai assez volontiers, parce que effectivement la danse s'adresse à chaque individu, curieusement, et chaque individu réagit très très différemment par rapport à un autre, etc. Et ce que vous dites sur la nostalgie, elle est liée sans doute à la question de l'enfance, mais il va être 13h, et pour peut-être que les auditeurs de Divergence FM, c'est un peu lourd.
Oui.
D'accord, merci.
Passons à un autre aspect de la danse contemporaine, c'est les accointances de plus en plus notables qu'elle entretient avec l'art contemporain. On va le voir cette année encore lors du festival avec certains chorégraphes qui proposent non pas des spectacles mais des installations. Comment interprétez-vous cette tendance ?
Eh ben, je fais comme vous, je l'observe et je n'arrive pas toujours à l'interpréter. Sinon que on a l'impression que comme ça, une nouvelle génération de créateurs, la dernière arrivée, fait moins confiance au corps, lui accorde moins d'importance et finalement s'intéresse davantage peut-être à l'espace, ou en tous les cas tire des arts plastiques et de ce qu'on appelle en art plastique les installations plus d'inspiration que la réalité et le questionnement du corps. Et donc des artistes comme Forsythe passent de l'un à l'autre assez régulièrement, c'est-à-dire composent des pièces chorégraphiques avec des danseurs, et puis la pièce d'après c'est plutôt une installation, c'est-à-dire des objets dans l'espace qui sont utilisables, qui sont utilisés par les spectateurs, mais où le danseur n'est plus là, même si, la plupart du temps, la question du corps est première dans cette question de l'installation. Ce n'est pas une installation pour une installation, c'est une installation qui questionne encore une fois le corps, mais sous un autre angle, par son absence peut-être justement, par la présence de corps qui ne sont plus des corps de professionnels. C'est particulièrement vrai pour ce White Castle, ce château blanc que Forsythe m'a proposé d'installer sur la scène du Quorum, ce qui est quand même assez fort, pour le moins qu'on puisse dire, et qui est à disposition des visiteurs, puisque ça se visite comme une exposition. Donc on vient et puis on rentre dans la salle du Quorum et puis on pénètre dans ce château gonflable qui est sur la scène. On l'utilise comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on devient soi-même des danseurs puisqu'on peut sauter dedans, on peut bouger, on peut sauter. Les autres vous regardent, donc les spectateurs qui arrivent vous regardent, donc ils restent spectateurs alors que les spectateurs qui étaient là juste avant se transforment en acteurs, en danseurs d'une certaine manière. Puis après, ceux qui étaient dans le château sortent et puis ceux qui les regardaient se mettent à leur place. Il y a tout un jeu sur cette question de qui est danseur, qui est spectateur, qui est une des questions récurrentes de cette nouvelle danse, de la nouvelle génération qui pose les questions et qui s'est posé des questions sur tous les concepts, toutes les approches de la danse. C'est quoi une œuvre? C'est quoi un chorégraphe? C'est quoi un interprète? C'est quoi un spectacle? C'est quoi un théâtre? C'est-à-dire pourquoi il y a un théâtre? Pourquoi il y a une scène d'un côté et puis des spectateurs assis sur des sièges de l'autre, et remettre tout en cause. Tout en cause, absolument tout, la notion d'œuvre, la notion de danseur, la notion d'interprète, la notion d'espace, et pourquoi pas, ma foi.
On parle beaucoup de questions, il en est une qui vous a beaucoup, on va dire, irrité. C'était à l'issue de la dernière conférence de presse bilan de l'édition précédente. Elle a été posée par Gérard Mayen, qui cherchait à vous faire réagir aux propos tenus par Georges Frêche sur notre antenne quelques jours plus tôt, relatif à, ce qu'on en a compris, une sorte de désintégration de Montpellier Danse après la 30e édition. Et pour faire éclore un festival complètement nouveau. Alors je me garderais bien de vouloir raviver votre colère là-dessus, mais c'est vrai que ça avait suscité quand même une légitime inquiétude et quelque chose d'assez anxiogène chez les gens qui aiment la danse et qui aiment Montpellier Danse.
Pourquoi ?
Parce qu'on s'est dit, tiens, mais que va-t-il se passer ?
Bah, il faut me faire confiance. Ça fait 30 ans que vous me faites confiance. Il ne vous reste plus qu'à continuer à le faire. Au contraire, rien ne signale que quoi que ce soit s'arrête. Ça ne fait que croître et embellir. Nous avons une somptueuse 30e édition à peu près unique aujourd'hui en termes de programmation en France et en Europe. Un nouveau bâtiment qui va ouvrir, qui est avec ses nouveaux studios, ses nouvelles salles, son nouveau théâtre de plein air restauré, qui avec, en association avec ce qui se passe à côté au centre chorégraphique, fait un ensemble extraordinaire qu'il va falloir animer et dont il va falloir s'occuper beaucoup. Maintenant, que le festival soit en questionnement, je trouve qu'au bout de 30 ans, c'est alors du coup assez normal. C'est normal qu'au bout de 30 ans, on se dise, vu le changement de la danse, vu le changement de la situation du spectacle vivant, vu son évolution, comment pourrait-on penser qu'il faut faire le même qu'il y a 20 ans ? Moi, je pense au contraire qu'il faut essayer d'en faire un autre, de réinventer autre chose. Est-ce que je suis le mieux placé ? Et c'est surtout ça que j'ai répondu à Georges Frêche. Est-ce que je suis, moi, le mieux placé alors que j'ai fait les 30 ans, pendant, j'ai fait 30 éditions ? Est-ce que je suis le mieux placé pour trouver les bonnes idées pour entièrement rénover ? C'est peut-être là où j'ai quelques doutes. Mais j'ai quelques idées. J'ai déjà commencé à travailler. Alors, on peut s'associer avec un artiste qui amènerait, par exemple, son propre univers.
Raymond Dogg, par exemple.
Par exemple, Raymond Dogg, qui est quelqu'un, effectivement, un chorégraphe que j'aime passionnément et qui a toujours amené, depuis 1999, où il vient régulièrement au festival, des moments absolument uniques dans ses éditions. Mais aussi, je sais pas, la question du cirque, qui est très prenante aujourd'hui. Et Guy Périlloux travaille à Alès, dans ce pôle cirque, d'une manière absolument exemplaire. Donc pourquoi ne pas s'associer pour, encore une fois, aider quelques artistes du cirque qui seraient à la fois en coproduction, à la fois Montpellier Danse, avec ses grandes scènes, avec ses moyens, avec son public, associé avec Pole Dance. Et puis comme ça, il y a des quantités d'autres idées, en gardant deux paramètres absolument obligatoires, qui sont un, le corps, et deux, la création, qui sont des choses finalement dont c'est ces deux mots avec lesquels on pourrait finalement résumer l'action qu'on a menée à Montpellier Danse depuis 30 ans. Le corps, la question du corps, et la question de la création, puisque la plupart des œuvres présentées à Montpellier Danse ont toujours été des créations, et qu'on s'en aperçoit mal à Montpellier, mais d'année en année, la moitié de la production française est faite à Montpellier quasiment tous les ans. La production importante, j'entends, des pièces importantes. Voilà. Donc, mais tout ça est au travail, à la réflexion. Puis après, ça va être les histoires de moyens. Après, Montpellier Danse a déjà beaucoup de moyens, et donc c'est encore dans cette période vraiment très difficile qui s'annonce. On se dit à qui on va encore extorquer des subventions pour encore aller plus loin. Donc, il y en a tellement qui en ont tellement peu, et ça va être tellement pénible et dur dans les années qui viennent. C'est exactement ce qu'on va nous proposer quand même. Hein. Même si on peut faire confiance à Georges Frêche pour continuer à soutenir la création, et particulièrement la création contemporaine et la culture en général. Mais enfin bon, et ses budgets ne sont pas illimités à lui non plus. Hein. Voilà, donc on se dit, ça va changer, quelque chose va changer. Ce 30e anniversaire est une sorte de fermeture d'une parenthèse plutôt enchantée, ce que j'ai appelé les parenthèses enchantées depuis une trentaine d'années, dans une espèce de... quand même beaucoup de moyens, beaucoup de choses, beaucoup de public, beaucoup de créateurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels qui viennent de partout. J'espère que ça va durer comme ça, mais il est possible aussi que ça change un peu. Et en tous les cas, il y a nécessité, je pense, de l'intérieur de Montpellier Danse aussi, à raviver tout ça, à raviver les couleurs, à faire un peu différemment et à faire nouveau avec des gens nouveaux. J'ai aussi fait appel à quelqu'un comme Fabrice Ramalingom, par exemple, qui est ce jeune chorégraphe Montpellier en tous les cas, mais pas seulement montpelliérain, il vit un peu partout dans le monde aujourd'hui, entre Montréal et Berlin souvent, ancien de chez Bagué, pour venir aussi avec nous. Donc disons que moi qui ai tout fait tout seul depuis très longtemps au plan artistique, j'ai plutôt tendance à ouvrir aujourd'hui largement du côté de gens avec qui je partage des options artistiques, que ce soit Ramalingom ou Raymond Dogueux, vers le futur.
Alors à propos d'ouverture, et on va en terminer là pour ne pas abuser de votre temps et pour ne pas faire patienter trop longtemps Étienne Schwartz, à propos de l'Agora, on a le sentiment, mais peut-être on se trompe, que c'est davantage le souhait enfin exaucé de Georges Frêche que le vôtre. Parce qu'on a l'impression que vous évoquez souvent le passé de ce bâtiment qui fut un couvent, qui fut une prison, et son aspect un peu fermé, justement. On a l'impression que ça tempère votre enthousiasme par rapport à ce lieu.
Non, c'est pas seulement le lieu. C'est que, quelque part, je raconte combien la danse est emparée de tous les espaces dans cette ville. Et c'est ça qui était une sorte de liberté. Voilà, c'était ne pas la signer, c'était pas dire à la danse, voilà, ça c'est chez toi, là, ici, pas, et pas ailleurs. Ce qui souvent referme les formats, referme l'imaginaire. Et donc c'était ce que je crains un peu dans cette agora Cité Internationale de la Danse, c'est qu'on n'en sorte plus, c'est-à-dire qu'on soit si bien à l'intérieur, que ce soit un cocon, où on soit bien entre nous, etc. Alors que ce que j'aimais, moi, certaines fois, c'était emmener Michel Kelemenis sur le quai numéro 2 de la gare SNCF de Montpellier pour y créer une œuvre. Alors je pense que ça va continuer, bien sûr. Hein. Mais, et puis l'Agora, vous l'avez vu commencer, puisqu'on est voisins. C'est une grosse forteresse, comme ça, refermée sur elle-même. Et mon souci essentiel, c'est d'essayer de l'ouvrir, de lui donner de l'air, de faire que ça circule, etc. Ce qui n'est pas non plus si facile à faire, ni si évident que ça. Voilà. Donc, mais à part ça, allons-y. Je me retrouve pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais voulu ni de théâtre, ni de scène nationale, ni rien du tout de tout ça. Et je me retrouve avec un gros bâtiment à gérer. Et les deux responsables s'appellent effectivement Dominique Bagouet et Georges Frêche. Ils ont eu raison parce qu'historiquement, c'est tous les deux qui ont raison de faire ça. À moi de m'accommoder et à moi de savoir faire ce qu'ils me demandent.
Pour finir complètement, cette fois-ci, il y a une photo assez émouvante que l'on retrouve dans pas mal d'ouvrages, notamment celui-ci, Montpellier Danse, et puis aussi dans le magazine Danser, et puis on l'a vu également dans la Gazette très récemment, c'est celle d'un Jean-Paul Montanari en 1988, chaussée de chaussons, répéto. Alors on connaît votre amour pour les créateurs, et ça ne fait pas de doute que vous en êtes un d'une certaine manière, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas le regret de n'avoir pas passé le pas et de ne pas avoir été ni danseur ni chorégraphe?
Si je peux vous embêter un petit peu plus, on la voit aussi dans Paris Match cette semaine.
Ah,
voilà. Et non, en ce qui concerne danseur, chorégraphe, non. Un seul regret, c'est que la danse m'a suffisamment bouffé, pris la tête, les mains, mon cœur, mes pieds et le reste, que je n'ai jamais pu écrire. Alors, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir écrire. C'est la seule chose qui me paraît... grandement digne d'estime, la lecture et l'écriture me paraissent les deux vraies hautes fonctions, dignes fonctions de l'être humain.
Jean-Paul Montanari, merci. On rappelle que Divergence se met à l'heure de la danse pendant toute la durée du festival, puisque nous animerons chaque jour de 13h à 13h20 une émission consacrée, un magazine consacré à l'actualité du festival. Merci.
Merci à vous, merci pour tout. Merci beaucoup.
Et on retrouve en direct cette deuxième partie de Tous au Poste avec rapidement deux petits sujets. Et on voudrait juste avant ça saluer la mémoire d'Henri de Camaret qui a été l'un des fondateurs des nouvelles grilles de Radio France Internationale RFI, notre partenaire d'info. Henri de Camaret qui était journaliste, écrivain, compositeur, qui était aussi comédien. On le voyait souvent jouer les vieux dans Groland. Et on voulait faire un grand salut à la mémoire de ce grand monsieur de la radio. De mémoire, il va en être question lors de la présentation de la saison de la scène nationale de Sète et du Bassin de Thau au Montpellier-Rhin ce soir à 18h à l'auditorium du Musée Fabre où les Sétois vous attendent nombreux. Et vous y retrouverez notamment Serge Valetti, auteur, metteur en scène et comédien, qui viendra parler de son texte, Salle Août. On va l'écouter parce qu'on l'a eu en interview il y a quelques heures seulement, dans une petite interview, pour présenter sa pièce que vous verrez ce soir, vous le verrez lui ce soir en chair et en os, à la présentation de la saison de la scène nationale de Sète et du Bassin de Thau à 18h à l'auditorium Musée Fabre. Serge Valetti. Serge Valetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de théâtre, comédien, et vous serez ce soir à la présentation de la saison de la scène nationale du théâtre de Sète à l'auditorium du Musée Fabre,
oui,
à Montpellier. Et vous,
oui,
êtes là particulièrement parce que vous êtes programmé pendant la saison de la scène nationale pour Salle Août, une pièce que vous avez écrite et qui est mise en scène par Patrick Pinault. Et qui sera joué au mois de novembre, le 25 et le 26 novembre, si ma mémoire est bonne. Parlez-nous un peu, Serge Valetti, de Salle Août, cet épisode absolument sanglant de la fin du 19e siècle dans les marais salants d'Aigues-Mortes.
Eh bien, disons que c'est un projet qui est à l'initiative de Patrick Sommier, directeur de la MC93 de Bobigny et de la Cité de l'Immigration.
Oui.
Et je me suis appuyé sur un dossier qui a été rédigé par Gérard Noiriel, qui est historien. Et si vous voulez, pour aller très vite et pour résumer, cette date du août 1893 marque un peu le passage entre le concept, on va dire, d'étranger qui est une richesse. L'étranger, avant ça, l'étranger, avant cette période, l'étranger est quelqu'un qui amène quelque chose, qui est une richesse, qui gagne à être connu, on va dire. Et à partir de là, peut-être naît l'idée que l'étranger est quelqu'un qui vient manger le pain des Français. Voilà. C'est le basculement du regard des Français sur les étrangers. C'est historiquement à peu près à ce moment-là que ça se situe, et c'est aussi le premier pogrom français, pogrom au sens où c'est la population qui s'entretue et la police et l'armée essaient de séparer et n'arrivent pas. Bon voilà, et donc c'est ce moment très très comme ça important et intense où il y a un drame terrible. Il faut s'empresser de dire que 6 mois après, il y a un procès, et dans ce procès, tout le monde est acquitté. Alors que bon, il y a quand même eu plus d'une dizaine de morts, les chiffres sont encore flous, beaucoup de blessés, donc on a vu les gens se battre et les assassiner, et pourtant, tout le monde est acquitté. Voilà. Et là, c'est la question se pose de savoir pourquoi, comment ça peut arriver, ce genre de choses.
Alors, vous dites que c'est le basculement du point des étrangers. On avait déjà ce mot étranger, hein, mais qui concernait effectivement plutôt les riches du Nord. C'était les Autrichiens, les Prussiens, c'était la Révolution française. Et effectivement, Gérard Noiriel, qui est un historien de l'immigration, insiste beaucoup là-dessus, sur ce point de décalage, en fait, entre tout d'un coup, on a une population qui est considérée comme malvenue, comme qui n'est pas intégré. En l'occurrence, là, pour Egmont, il s'agit des Italiens, et non pas de nos voisins d'aujourd'hui des rives de la Méditerranée. Et voilà. c'est quelque chose qui est très important dans l'œuvre de Gérard Noiriel, qui est beaucoup plus difficilement répandu dans le théâtre contemporain aujourd'hui. Cette façon de faire œuvre politique à l'intérieur du théâtre, c'est quelque chose qui suit votre parcours.
Non, mais disons que... Vous voyez, on en parle, là, on en parle. On en parle parce qu'il y a des représentations théâtrales. Alors c'est vrai que, par exemple, le cinéma ou les livres ou ces choses, la peinture, la musique, peuvent faire résonner ce genre d'événements, enfin faire parler de ces événements passés. Mais c'est vrai que le spectacle vivant et le théâtre, en l'occurrence, c'est quelque chose qui fait qu'on va en parler et ça va diffuser dans la société. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est pour ça qu'on fait du théâtre. Alors après, la difficulté pour moi, bon, c'est que je suis réputé comme auteur comique, et quand un auteur comique, on pose un problème comme ça, parce que c'est de parler d'une tragédie, là, ça devient ou une catastrophe ou quelque chose de très intéressant. Bon, moi, c'est vrai que je suis d'origine italienne, mon père est né à Rome, ma grand-mère parlait italien, même si à cette époque-là on refusait un peu ce statut. Enfin, dans ma famille on parlait toujours français, j'ai jamais pratiquement entendu parler l'italien, mais c'est quelque chose qui m'a touché, j'ai eu envie de me coltiner avec ça. Alors j'appelle ça comédie triste, et j'ai placé ça sous l'angle de la personne qui a été la seule qui a été condamnée dans ce procès dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un monsieur qui, lui, n'a pas ouvert sa porte quand les Italiens étaient pourchassés et en train de se faire tuer. Ils ont voulu entrer dans une maison et ils n'ont pas pu. Cet homme-là a fermé sa porte, et c'est le seul à avoir été condamné à 10 francs d'amende parce qu'il n'a pas ouvert sa porte.
Pour non-assistance à personne en danger.
Cet axe pour parler de ces événements-là.
En tout cas, c'est une très belle pièce, c'est Salle Août. Vous retrouverez ça au mois de novembre à 7. Et vous pouvez surtout retrouver Serge Valetti en chair et en os, parce que vous serez là tout à l'heure, à 18h, pour pouvoir discuter avec lui au moment de la présentation de la saison de la scène nationale. Je vous remercie beaucoup, Serge Valetti, de ces petits mots sur ce devoir d'histoire, ou cette histoire de devoir, pour laquelle vous avez travaillé longtemps avec le texte de Gérard Noiriel et la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration. Il faut le répéter parce que c'est important. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Merci à tout à l'heure.
Voilà, Serge Valetti, et pour finir ce Tous au poste, un petit événement un peu spécial, puisque c'est un événement dont le partenaire média et notre voisin des ondes est néanmoins un mille échos des Garrigues, que nous saluons au passage. Il s'agit d'Extérieur 2, c'est un festival d'art en pleine nature qui aura lieu à la pépinière L'Arc en Fleur à Saint-Christol. C'est vraiment en pleine nature, à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Ça a lieu ce week-end, samedi 19 et dimanche 20, dès 10h samedi matin. On ne les reçoit pas aujourd'hui, mais nos amis de l'écho des Garrigues nous ont transmis un des petits modules dont ils se sont servis pour annoncer l'événement. Et on va pouvoir retrouver ça pour clore ce Tous au poste. C'est la voix de Florence de l'écho des Garrigues. Extérieur 2, c'est un festival d'art en pleine nature. C'est le 19 et le 20 à Saint-Christol, à la pépinière L'Arc en Fleur.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Entrez dans un univers bucolique. Toi, étranger, laisse-toi emmener à la croisée des chemins entre art visuel, musique et nature. Des artistes ingénus, à part et inétiquetables seront à la pépinière L'Arc en Fleur les 19 et 20 juin pour partager leurs fantasmes. Ouvrez votre esprit. Allez à la découverte de ces créations audacieuses et en communion avec la nature. L'inattendu sera ton rendez-vous.
Après mûre réflexion, je crois habituellement au croisement des croissants.
Le dimanche sera plus paisible. À partir de 10h, une matinée zen vous permettra de quitter la frénésie de la semaine. Un moment de sagesse et de méditation, loin, très loin du quotidien urbain. À 15h, retrouvez le groupe Yumi Zeb, qualifié de variété alternative, tellement il est difficile de le cataloguer. Des influences funk, dub, reggae ou encore hip-hop. Zeb, Olive, Soso et Asdi improviseront sur le thème Chatouille et Shabada, un joli cocktail rafraîchissant.
Il faut bien évidemment savoir que chez Shadok, les chanteurs ne sont pas des artistes. Il est tout de même permis de planer.
Il est minuit. Et nous commençons la veillée. Ici Stevie Wayne, tout en haut du monde, et avec vous jusqu'aux alentours de 1h.
En extra, Jean-Pierre Yves sera attendu pour présenter une performance. On ne sait pas trop quoi encore. Seul son nom est connu, le vieil art vert. Libre à vous d'interpréter. En tout cas, l'effet de surprise est assuré.
Et je me roulerai dans la farine moi-même, parce que j'en aime le contact.
Très très chaud.
Extérieur 2 ne peut pas rester confidentiel. Retrouvez l'événement les 19 et 20 juin à la pépinière L'Arc en Fleur à Saint-Christol dans l'Hérault, perdu quelque part entre Lunel et Sommières.
Une vie avec moi, des pleurs, des effusions de sang, une vie dans le froid et le
C'est la fin de cette édition de Tous au poste. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes sur le 93.9, c'est dans quelques petites secondes un magazine consacré à l'actualité du Festival Montpellier Danse qui débute aujourd'hui. Magazine que vous retrouverez chaque jour du lundi au vendredi de 13h à 13h20 sur le 93.9. Ce sera suivi de la chronique ciné de Vincent Pourageau. Et puis à 13h30, on retrouve Lawrence McGuire pour sa demi-heure hebdomadaire tout en anglais, The Globe. Et puis pour le reste des programmes, je vous renvoie au site www.divergence-fm.org.